Aurélien Scholl, l'art de rendre les femmes fidèles. Parlons encore de la femme. S'il est un sujet intéressant et universel, c'est bien certainement celui-là. La politique ne m'a jamais préoccupé. Et si l'on me blâme de cette insouciance, je rappellerai à ceux qui s'inquiètent avant toute chose de l'annexion d'un cœur à un autre. Vive les femmes, ce que ne sera jamais séditieux. Qu'elles brodent elles-mêmes le pavillon de leurs adorateurs, la lampe sera toujours en irlandais de fleurs, le pavillon sera rose et bleu, et frangé de chevelures blondes. Pour devise, non pas à la plus belle, non pas davantage à la moins bête, mais seulement à celle qui nous plaît. Ce préambule a pour but d'excuser les duretés que l'étude de ces êtres charmants amènera nécessairement sous notre plume. Ovid, Shakespeare, Cyrodin, on dit « le cœur de la femme est un abîme ». Mais si Rodin, Shakespeare et Ovid avaient raison, si on en juge par le nombre des gens abîmés. Mais le véritable amour, c'est comme les revenants. Tout le monde en parle et un bien petit nombre en a vu. Pourquoi aime-t-on ? Parce qu'on s'ennuie. Parce qu'on a bien aimé, parce que la femme est une affaire d'infinité, de vanité, quand elle n'est pas une affaire de tempérament. Mais pourquoi s'imposer des chaînes quand il est si doux d'être libre, d'aller au hasard, de courir Paris sans autre tyrannie que celle des débits de tabac? Pourquoi renoncer à la polygamie, au célibat, quand l'attrait d'une dot n'est pas là pour nous fasciner? Pourquoi renoncer au sommeil du matin, à cette solitude rêveuse, à cette indépendance du réveil? Mais quelle compensation l'amour nous offre-t-il? L'amour. Mais là, c'est la lutte avec une femme. Lutte parce qu'elle ne veut pas vous aimer. Lutte parce que, dès qu'elle vous a aimé, elle désire en aimer un autre. Lutte parce qu'elle a des yeux. Lutte parce qu'elle rit quand on lui parle. Lutte parce qu'elle aime à causer. Et que pour causer, il faut être deux. L'amour, c'est la jalousie. On peut trouver des femmes qui n'ont jamais eu d'amant, mais il est rare d'en trouver qui n'en ait eu qu'un. Et alors, quand on ne s'aime plus, comme on a honte de s'être aimé. Il avait de grands pieds, une dent piquée, la démarche déjà gandée, il se grattait le nez avec un canif, il se peignait avec un clou, il se mangeait les ongles. Voilà pour l'homme. Elle ne savait pas dire non deux mots de suite. Ou bien, elle bavardait à tort et à travers. Elle avait de vieilles mèches de cheveux dans une vingtaine de médaillons. Elle tutoyait les gens tarés. Elle ronflait, elle avait les bas troués, des robes jaunies sous les bras. Voilà pour la femme. Et si le nouvel aimant est supérieur à l'amant délaissé, on pardonnera volontiers à la perfide Mais le plus souvent, c'est le contraire qui arrive. Au théâtre seulement, le baryton est toujours abandonné pour le trésor. Rappelez-vous le songe de Boccace. La femme rend compte à l'amant de tout ce que dit, de tout ce que fait le mari. Elle livre complètement celui qu'elle n'aime plus. Dès que vous êtes bien à elle, dès qu'elle est complètement sûre, elle vous méprise et vous abandonne. Les marques d'affection les plus touchantes lui deviennent alors insupportables. Elle s'irrite de ce qui l'avait charmée autrefois. Les femmes ont une présomption inconcevable. La plus laide se trouve supérieure aux autres. La plus débauchée se trouve relativement pure. Ce sexe est naturellement faible et timide. Le moindre péril le fait trembler. Le tonnerre, le vent, une souris, une petite pierre, un craquement. Et les femmes ont une frayeur inexplicable. Mais quand il s'agit d'une expédition amoureuse, rien ne leur fait peur. Elles se rendront la nuit dans des endroits déserts. Elles vous donneront rendez-vous jusque dans les cimetières. Elles introduiront leur galant dans leur maison, malgré le père et malgré le mari. Quand les femmes ont peur d'être blâmées, elles s'épuisent à séduire le jugement. Elles n'épargnent pour cela ni les larmes, ni les serments. Elles ont une présence d'esprit merveilleuse pour le mensonge et autant d'effronterie qu'il en faut pour le soutenir. Et si on leur reproche quelque chose qu'on aura vu de ses propres yeux, elles répondront hardiment: me croire capable d'une pareille infamie? Oh, mais tu es fou, c'est être fou! Ou bien: vous êtes ivre. Et si l'on s'opiniâtre avec elle, c'est inutilement. Elles n'admettent pas la preuve. Elles s'entretiendront avec une servante plutôt que de se passer de causer. Elles ne racontent jamais une chose sans lui donner des couleurs conformes à leur intérêt ou flatteuses pour leur vanité. Bien fou qui croit qu'une mère coquette, souriante, souhaite de voir sa fille meilleure qu'eux, plus chaste qu'elle, de l'homme qu'elle n'aime plus. La femme oublie jusqu'aux faveurs qu'elle lui a faites. La femme qui se fait dévote oublie le passé, se fait honneur du présent. Elle ne renonce pas à l'avenir. Elle est aussi fière de sa tardive vertu que si elle avait toujours été sans reproche. Voyez votre maîtresse après 6 mois. S'il y a quelque chose de bon à table, c'est pour elle. Si elle a besoin de quelque objet, il faut que vous alliez le rechercher. Elle vous fera faire une lieue plutôt que de faire un pas elle-même. Il semble que toutes les obéissances lui soient dues. Jamais elle ne vous est reconnaissante de rien. Elle est aussi gracieuse et prévenante avec les étrangers que Revêche et Maussade avec vous, de façon que tout le monde vous donne tort. Et si vous lui reprochez ses familiarités avec des gens indignes. Elle lève les yeux au ciel et prend des airs de sainte. On trouvera ses manières douces et civiles à cause de sa grande facilité à se lier avec les premiers venus. Vous seul, vous connaissez les revers de cette amabilité. Et cependant, cette coloquinte vous dégoûte pas du poison. Voici deux lettres de la même femme écrites à 3 mois de distance. Première lettre. Gustave, je t'aime. Toute ma vie est dans ce mot. Toutes mes facultés, tous mes sens, toute mon âme et tout mon corps te disent je t'aime. C'est horrible de penser que ma famille m'a jeté dans les bras d'un homme et que tu ne sois pas à la fois mon amant et mon mari, toi mon unique amour. Oh, si tu savais comme je me sens forte quand je pense à toi. Oh, Gustave, je braverai aussi bien le mépris du monde que la volonté de ma famille. Mon mari est parti, tant mieux. Mon enfant pourra t'appeler son père. La nuit, je me répète ton nom. Le matin, je descends au jardin pour effeuiller des fleurs et te faire dire que tu m'aimes tendrement. Oh, je ne veux plus rester aussi longtemps sans te voir. Comment veux-tu que je vive si tu n'es pas là toujours? Etc. Deuxième lettre. Gustave, il faut nous séparer. Quand je songe avec aux imprudences, aux folies que vous m'avez fait faire, oh, je rougis de moi-même. N'est-ce pas votre devoir de m'empêcher de rompre en lisière avec le monde et avec ma famille? Mais qu'avez-vous à me donner en échange de ce que vous me faisiez perdre? Quelques transports d'une passion passagère. Oh, c'était bien la peine. Oh, je le reconnais aujourd'hui. Je ne vous ai jamais aimé. Était-ce de l'amour, cet oubli des convenances, cet enivrement, riche de mes remords? Le bonheur n'est pas là. Vous m'avez perdu, vous êtes un misérable, etc., etc. Notez bien que Gustave n'avait été que le 7e à prendre cette pauvre femme. Mais la femme romanesque n'est pas la plus dangereuse. Elle reste femme. Elle est susceptible de la plus grande passion et du plus grand dévouement. Mais la pire espèce, la catégorie la plus haïssable, c'est la femme à bonne fortune. Cette variété du genre fleurit surtout dans les capitales, à Paris, Londres, Pétersbourg, Vienne. La femme à bonne fortune craint l'amour vrai, comme le filou craint la prison, comme le chien craint la muselière. Elle a soin de rappeler souvent à son adorateur la raison et de lui faire comprendre et entendre que ces choses-là ne sont pas sérieuses. Elle n'a jamais dit « c'est pour toujours », mais au contraire, « c'est pour quelque temps, ne l'oubliez pas ». Elle comprend l'homme comme le grandin de 40 ans déplumé, blasé, comprend la femme. Tous les deux ont vécu. On devrait mettre sur leur tombe un manche à balai rôti. La femme à bonne fortune commence à La Princesse de Grignan et s'arrête à Coralie. La femme à bonne fortune regarde les messieurs de la tête aux pieds. Elle a l'œil amateur. Elle estime son jeune homme à première vue, comme un commissaire-priseur estime un mobilier. Elle lui dit volontiers, en parlant du premier venu, « Présente-le-moi donc. Il faut dire à monsieur qu'elle le trouve charmant, ce qui équivaut à lui envoyer un bouquet. Des choses de la vie, elle ne dit pas « c'est bien » ou « c'est bien mal ». Non, non, elle dit « cela plaît aux hommes » ou « cela ne plaît pas aux hommes ». Les hommes n'aiment pas cela. Toujours les hommes. Mais pourquoi une robe? Pourquoi de longs cheveux? Pourquoi un paroissien sur la console? Mais que vous reste-t-il de la femme? Le masque. Pour la femme à bonne fortune, aimer quelqu'un, c'est être avec. Elle ne dit pas « quand j'aimais Raoul », elle dit « quand j'étais avec Raoul ». Pitié au malheureux qui sait prendre une femme à bonne fortune. C'est un rat amoureux d'une chatte. Sa maîtresse le roule, l'égratigne, le mord, le met en lambeaux et le dévore. Oh, je me rappelle un conte assez cruel. Je crois même que j'en suis l'auteur. Une guenon est adorée d'un jeune homme. Elle l'aime beaucoup aussi, mais de temps en temps, elle le trompe avec un singe. Question d'espèce. Vous prenez une blanchisseuse. Vous lui faites 20 000 livres de rente, vous l'habillez comme une duchesse, et elle vous trompe avec un maraîcher. La femme à bonne fortune doit être mariée ou veuve. Demoiselle, ce n'est plus qu'une lorette. L'époux infortuné d'une femme à bonne fortune lui reprochait de l'avoir trompée avec un ténor qui répond au nom de Florestan sur l'affiche. Et au nom de Limonadeux sur son extrait de naissance. Malheureux, s'écriait-il, mais comment avez-vous fait pour me tromper avec un individu nommé Limonadeux? Et la femme me répondit avec tristesse, je ne le connaissais que sous le nom de Florestan. Le bon public me dira, mais alors comment peut-on aimer une femme à bonne fortune? Voici la réponse. Quelques artistes, écrivains, peintres et sculpteurs déjeunent dans un petit restaurant où l'on fait de la soupe aux choux une fois par semaine. Le premier arrivé prend une soupe aux choux. Les autres suivent son exemple. Enfin, il y en a un qui arrive trop tard et à qui on répond: Ah, la soupe aux choux est finie. Oh, mais comment, est-ce qu'il n'en reste pas encore un peu? Oh, bien peu, monsieur. Oh, eh bien, donnez-moi ce qui reste. C'est ainsi que le dernier venu se contente de ce que les autres lui ont laissé. Oh, c'est la même qualité, seulement il y a moins de choux, moins de pain et moins de bouillon. Étant donné ce qui vient d'être lu, l'amour et son cortège de œufs et de riz peuvent se résumer en trois mots. À quoi bon? Malheureusement, l'homme et tous les autres singes ne sont pas faits pour vivre seuls. La solitude, c'est la chasteté. La chasteté, c'est la pléthore. On se cherche partout et toujours, au salon, dans la rue, à la ville ou à la campagne. On se cherche. Et quand on se rencontre, on croit s'être trouvé. Mais alors, Comment faut-il s'y prendre pour rendre une femme fidèle? Il n'y a que le mari qui puisse rendre une femme fidèle. Il faut que le mari soit jaloux, défiant, ombrageux, grossier, brutal. Et à ces conditions, la femme sera fidèle à son amant.